C'est l'heure du journal avec Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. L'Union européenne veut sanctionner la Pologne pour ses réformes judiciaires. Bruxelles juge inacceptable les atteintes à l'état de droit que commettrait le gouvernement conservateur polonais. La procédure est exceptionnelle, nous expliquera dans un instant Quentin Dickinson. En Catalogne, les élections régionales de demain s'annoncent indécises. Les indépendantistes et les partisans de l'Espagne sont au coude à coude. Et pour compliquer la situation, chaque bloc est divisé entre droite et gauche. Nous serons en direct de Barcelone avec Annabelle Grelier. Violents affrontements au Kurdistan irakien, des milliers de manifestants dénoncent la corruption des dirigeants kurdes de la province autonome. Nous ferons le point avec Éric Biégala. En France, le Premier ministre Édouard Philippe mis en cause pour le coût du vol Tokyo-Paris qu'il avait ramené de Nouvelle-Calédonie. 350 000 euros, l'opposition dénonce une dépense inconsidérée. Nous verrons cela avec Stéphane Robert. Vers un nouveau procès pour Bernard Tapie, l'homme d'affaires est renvoyé en correctionnel dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Les explications à suivre de Florence Turm. C'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. La Commission de Bruxelles a déclenché aujourd'hui une procédure de sanctions contre un État membre, la Pologne en l'occurrence, pouvant notamment priver le pays de ses droits de vote au sein de l'UE. La Commission reproche au gouvernement conservateur polonais des réformes judiciaires qui menaceraient l'État de droit. Nous sommes en ligne avec Quentin Dickinson à Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Alors Quentin, la Commission a activé l'article 7 du traité de l'UE, souvent qualifié d'arme nucléaire dans l'échelle des sanctions européennes. Pourquoi cette virulence finalement contre la Pologne ?
Eh bien, la première raison est d'ordre juridique. Gardienne des traités, la Commission européenne peut se faire traîner devant la Cour de justice de l'UE par n'importe quelle personne physique ou morale et se voir condamnée pour carence si elle devait faillir à son devoir de vigilance. La deuxième justification de cette sévérité sans précédent est davantage politique, c'est que l'on assiste en Europe centrale, mais pas uniquement, à une dérive autoritaire graduelle de la part de gouvernements légalement élus, la Pologne et la Hongrie en étant les exemples les plus évidents. Et la Commission européenne ne pouvait pas laisser se développer cette tendance sans réaction de sa part. Car il est clair que si cette nouvelle loi encadrant les cours et tribunaux avait été en vigueur en 2004, jamais la Pologne n'aurait satisfait aux critères dits de Copenhague qui délimitent le champ obligatoire de toute démocratie parlementaire à l'européenne et du coup, jamais n'aurait-elle pu devenir membre de l'UE. L'autre motivation, en l'espèce de la Commission, c'est qu'elle perçoit une évolution de fond dans la plupart des pays européens. Trop longtemps déçus d'une Europe institutionnelle frileuse et n'osant trop s'affirmer, très nombreux sont aujourd'hui les citoyens qui en réclament davantage de poigne et de prise de position claire. Ce matin, ils ont été servis.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles, merci. À Varsovie, le gouvernement polonais, je cite, accueille avec regret une décision politique et non juridique de la Commission européenne, décision qui pèse inutilement sur nos relations avec Bruxelles. Voilà ce qu'affirme le communiqué du ministère polonais des Affaires étrangères. Les Européens qui suivront de près demain les élections régionales en Catalogne, scrutin destiné à solder la crise politique née de la déclaration unilatérale d'indépendance en octobre. Depuis, Madrid a pris le contrôle de la Catalogne, plusieurs leaders séparatistes sont en prison et l'ancien président catalan Carles Puigdemont est en exil à Bruxelles. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Barcelone, Annabelle Grelier. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Alors Annabelle, les derniers sondages donnent toujours les deux blocs antagonistes pratiquement à égalité, les indépendantistes d'un côté et les partisans de l'Espagne de l'autre. Mais si l'on observe la situation dans le détail, on retrouve à l'intérieur de chaque bloc le clivage traditionnel droite-gauche.
Oui, si les électeurs ont le choix entre cette formation répartie entre deux blocs, les pour et les contre l'indépendance de la Catalogne, il n'en reste pas moins que dans les deux camps, le clivage politique gauche-droite est fort. Certes, les indépendantistes n'ont pas réussi à faire une liste commune, comme ils étaient parvenus à le faire lors des dernières élections 2015, et quelques dissensions entre les deux candidats des principales formations séparatistes, Oriol Junqueras et Carles Puigdemont, se sont fait jour lors de cette campagne. Mais les unionistes ne sont pas moins divisés. La droite libérale de Ciudadanos, très offensive, est donnée favori pour ce scrutin. Sa candidate, Inés Arrimadas, a même déclaré que son parti est le seul vote utile. démocrate de pacotille, lui a répondu Miquel Iceta, le candidat du Parti Socialiste Catalan, qui se voit déjà président du gouvernement régional en cas de victoire du camp unioniste. Quant à la plateforme catalane de Podemos, en refusant le souverainisme catalan, elle se retrouve de fait dans le camp du PP et Ciudadanos. Autant dire que ces élections pourraient être suivies de transgressions de lignes politiques traditionnelles. En tout cas, les tractations promettent d'être longues et difficiles pour atteindre les fameux 68 sièges de majorité.
Annabelle Grelier en direct de Barcelone, merci. Une semaine avant la Catalogne, le Kurdistan irakien avait aussi organisé un référendum d'indépendance. C'était le 25 septembre dernier. Le oui l'avait emporté à une majorité écrasante. Mais tout comme en Espagne, le pouvoir central à Bagdad avait rejeté les résultats du scrutin. Aujourd'hui, le Kurdistan irakien connaît une véritable flambée de violence. Éric Biegala, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Dans la province de Souleymaniye, notamment, des milliers de manifestants affrontent les forces de l'ordre pour dénoncer la corruption de leurs dirigeants.
Oui, c'est la troisième journée consécutive de troubles dans le Kurdistan irakien. Ce qui avait commencé comme de simples manifestations de mécontentement vis-à-vis du pouvoir kurde s'est transformé hier et ce mercredi en de véritables émeutes, particulièrement dans les districts des gouvernorats de Souleymaniye et Halabja, dans l'est de la province autonome, près de la frontière iranienne. Cet après-midi encore, les locaux de l'Union islamique du Kurdistan, de la petite ville de Kalajeh, ont été incendiés. En tout, une bonne quinzaine de locaux de mouvements politiques ou d'officines affiliées au gouvernement régional ont été pareillement incendié depuis lundi par des foules en colère. À au moins une occasion, hier, les forces de l'Asayish, la sûreté locale, ont ouvert le feu sur les manifestants. On compterait au moins 2 morts et près de 80 blessés, dont de nombreux blessés par balles. L'élément déclencheur de cette vague de protestation a peut-être été l'annonce la semaine dernière par le gouvernement régional de nouvelles coupes dans les salaires des quelques 1 200 000 personnes employées dans les instances publiques et parapubliques de la province autonome kurde. Depuis 2014, avec l'offensive de l'État islamique dans le nord irakien, et la rupture quasi complète des relations budgétaires avec Bagdad, qui n'abonde plus au budget de la province, le Kurdistan d'Irak vivait en état de crise économique permanente, ses ressources pétrolières ne lui permettant pas de s'autosuffire. La chute du prix du baril a encore plombé ses ressources et le coup de grâce est tombé en octobre dernier avec la récupération manu militari par l'armée de Bagdad de tous les territoires disputés jusque-là contrôlés par les Kurdes, notamment dans la riche province pétrolière de Kirkuk. Un mouvement qui n'était autre que la réponse énervée de la capitale irakienne au référendum d'indépendance que les Kurdes venaient de tenir fin septembre. Avec les puits de Kirkuk en moins, les ressources pétrolières du gouvernement régional du Kurdistan avaient été amputées de moitié.
Éric Biegala, merci. La Fédération internationale des droits de l'homme dénonce des massacres planifiés en République démocratique du Congo. C'est le terme employé par la FIDH dans un rapport de 100 pages. L'organisation pointe des exactions commises par certaines forces de sécurité congolaises, mais aussi par une milice soutenue par l'armée régulière. La FIDH qui parle de crimes contre l'humanité et liste une cinquantaine de responsables. Valérie Crova.
C'est en Angola que la FIDH est allée recueillir les témoignages de 64 réfugiés qui ont fui les violences commises dans le territoire de Kamonia, au sud de la province du Kasaï, entre mars et juillet 2017. Ils ont décrit les exécutions sommaires, les mutilations, les viols, les sévices sexuels, des crimes attribués principalement à des éléments de l'armée et de la police congolaise, ainsi qu'à des miliciens soutenus par l'armée. Dans plusieurs villages, les victimes ont été massacrées en raison de leur ethnie et de leur supposée affiliation à l'opposition. Car les violences commises au Kasaï s'inscrivent dans un contexte marqué par une vaste répression des opposants à Joseph Kabila. Le président congolais, dont le mandat a expiré il y a tout juste 1 an, retarde l'organisation de nouvelles élections de peur de perdre le pouvoir. Et la FIDH de souligner que ces atrocités s'inscrivent dans une instrumentalisation récurrente des tensions par le régime de Joseph Kabila. Une liste de 50 personnes présumées responsables de ces crimes a été établie. Il s'agit d'éléments de l'armée, de la police ou encore des membres des autorités locales. Une liste qui pourrait être transmise à la Cour pénale internationale ou à toute autre institution désireuse de conduire une enquête.
À l'actualité française avec cette question tout d'abord, le gouvernement est-il en train d'adoucir son projet de loi sur l'immigration? En tout cas, le ministère de l'Intérieur a renoncé aujourd'hui à une disposition relative aux demandeurs d'asile. La notion de pays tiers sûr ne figurera pas dans le texte, a indiqué le député LREM Sacha Houlier. Rappelons que les associations de défense des migrants accusent le ministre Gérard Collomb de préparer une loi qui limiterait le droit d'asile en France. Marie-Pierre Viraud, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement supprime donc cette notion de pays tiers sûr. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, cette notion de pays tiers sûr aurait permis de renvoyer un demandeur d'asile vers un pays tiers, donc non européen, par lequel il aurait transité avant d'arriver en France et où il serait considéré en sécurité. Or, c'est une notion très contestée et qui n'a pas de base juridique. Il n'y a pas, par définition, de pays sûr. Tout dépend de chaque situation individuelle. Hier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans un avis très net, estimer le concept non conforme avec la Constitution qui consacre le droit d'asile. Il n'est pas non plus conforme aux engagements internationaux de la France ou à la Convention de Genève, puisque chaque demandeur d'asile doit voir sa situation examinée au fond dans le pays dont il demande la protection. Or, une telle notion aurait pu conduire à juger la plupart des demandes irrecevables, ou alors les demandeurs d'asile concernés auraient pu être placés en procédure accélérée avec une quasi-certitude de se voir renvoyés vers ce pays tiers sûr. Pour la CNCDH, cette disposition revenait donc à vider le droit d'asile de sa substance, puisqu'elle fait prévaloir la définition d'espace de sûreté sur l'obligation de protection qui est pourtant au cœur du droit d'asile. Alors, pourquoi le gouvernement a-t-il reculé sur ce point ? Le risque de saisine du Conseil constitutionnel et donc d'inconstitutionnalité du texte y est sans doute pour beaucoup. Si les associations se félicitent de cette avancée, elles appellent à la vigilance. D'autres points les font tiquer. La possibilité de placer des étrangers en rétention jusqu'à 90 jours. Mais l'inquiétude se porte aussi sur l'Europe, qui discute activement d'un texte qui obligerait les États membres à intégrer la notion de pays tiers sûr dans leurs droits. Ce retrait pourrait donc n'être que provisoire.
Marie-Pierre Véraud, merci. On revient à présent sur cette polémique autour du voyage d'Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie. Pour rentrer rapidement à Paris le 6 décembre dernier, le Premier ministre et sa délégation ont eu recours à un vol privé facturé 350 000 euros. Il s'agissait d'un Airbus A340, alors qu'à l'aller, Édouard Philippe et son entourage avaient voyagé dans un appareil militaire. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir Stanislas.
L'opposition reproche au Premier ministre une dépense inconsidérée au moment où le gouvernement demande aux Français de se serrer la ceinture.
Oui, et Matignon, tout comme le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, ont un peu de mal aujourd'hui à justifier ce choix d'avoir eu recours à un avion privé. Avion privé qui a permis de gagner 2 heures sur l'horaire d'arrivée initialement prévu. 2 heures, c'est très peu pour un montant de 350 000 euros. Les services du Premier ministre avancent le fait qu'il devait arriver avant qu'Emmanuel Macron ne s'envole pour l'Algérie, au nom d'une règle qui veut qu'il y ait toujours sur le sol français soit le président, soit le Premier ministre. L'explication est un peu alambiquée, d'autant que cette règle, si c'en est une, a souffert de nombreuses exceptions par le passé. Non, l'explication la plus probable est qu'il y a eu un peu de cafouillage dans l'organisation de ce déplacement, qu'à défaut de pouvoir utiliser l'avion présidentiel que se partagent alternativement le président et son Premier ministre, c'est un avion militaire pas très confortable qui a été choisi, qu'à l'aller, Édouard Philippe y avait très mal dormi, qu'il était arrivé le matin en Nouvelle-Calédonie très fatigué alors qu'il devait enchaîner sur une journée bien chargée. Là, c'était la même chose. Arrivée prévue 9h30 dans la matinée à Paris, il a donc sans doute été décidé de recourir à cet avion privé. Seulement 350 000 euros pour gagner quelques heures de sommeil. Évidemment, c'est un peu difficile à justifier auprès de l'opinion. Alors maintenant, faut-il monter en épingle cette affaire ? Ce genre de voyage officiel coûte nécessairement très cher, comme l'a rappelé Manuel Valls, l'ex-premier ministre, ce matin. Et puis, si vous écoutez un peu le concert de tous ceux qui s'indignent, vous verrez qu'il y a des élus de la France Insoumise, d'autres chez les Républicains proches de Laurent Wauquiez, ou encore des responsables du Front National. Bref, tout un tas de personnalités politiques qui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ont bien du mal à s'opposer et à exister. Et ils ont trouvé là un moyen assez commode pour pousser de hauts cris et pour protester.
Stéphane Robert, merci. Le député insoumis François Ruffin, sanctionné par le bureau de l'Assemblée nationale pour avoir porté un maillot de foot à la tribune de l'hémicycle. Il sera privé pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire, soit 1378 euros. Le 7 décembre dernier, l'élu de la Somme avait arboré à la tribune le maillot d'un petit club picard, l'Olympique Haut-Courtois. Il s'agissait pour François Ruffin de soutenir un texte du groupe UDI Agir visant à taxer les gros transferts sportifs. C'est un nouvel épisode dans la très longue saga judiciaire de Bernard Tapie. L'homme d'affaires est renvoyé en correctionnel pour escroquerie et détournement de fonds dans le dossier de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Il y a 9 ans, Tapie avait obtenu un peu plus de 400 millions d'euros pour solder son litige avec la banque concernant la revente d'Adidas. Depuis, cette procédure d'arbitrage a été remise en cause par la justice civile. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Cette affaire Tapie-Crédit Lyonnais arrive cette fois au pénal.
Oui, et au cœur de cette affaire, vous le disiez, cet arbitrage à 403 millions d'euros, dont 45 millions au titre du seul préjudice moral rendu en 2008 en faveur de l'homme d'affaires et censé solder un litige vieux de 15 ans. Une affaire qui va finalement donner lieu à une bataille judiciaire, double bataille sur les terrains civil et pénal, avec une incursion par la Cour de justice de la République. Elle va reconnaître Christine Lagarde, la ministre de l'économie de l'époque, coupable de négligence, tout en la dispensant de peine. Elle n'avait engagé aucun recours contre cet arbitrage décidément très défavorable à l'État. Aujourd'hui, son ancien directeur de cabinet et actuel patron d'Orange se retrouve lui aussi parmi les 5 mises en examen renvoyées en correctionnel aux côtés de Bernard Tapie. Stéphane Richard, dont l'avocat explique qu'il n'a fait qu'exécuter la décision ministérielle d'aller à l'arbitrage. Pierre Estoupe, l'un des 3 magistrats qui présidaient à cet arbitrage, se retrouve poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics et escroquerie, de même que Maurice Lantourne, l'avocat historique de Bernard Tapie. Les liens entre les deux hommes ont très vite laissé penser à une entente préalable au fameux arbitrage. Pour autant, les juges n'ont pas retenu la circonstance aggravante d'escroquerie en bande organisée, ni, il faut le souligner au passage, une quelconque charge contre Claude Guéant, placé durant l'enquête sous le statut de témoin assisté. Le procès correctionnel désormais sur les rails, la procédure civile n'est pas pour autant terminée. En 2015, Bernard Tapie avait été condamné à rembourser l'argent perçu, décision validée par la Cour de cassation, mais mise à mal par le tribunal de commerce qui déclare les actifs de ces sociétés inaccessibles aux créanciers. Le parquet a fait appel et le feuilleton judiciaire se poursuit sur ce terrain-là.
Florence Turme, merci. Depuis la loi de transition énergétique de 2015, les salariés qui se rendent au travail à vélo peuvent bénéficier d'une indemnité kilométrique. Cette IKV, c'est le terme officiel, s'élève à une 20aine d'euros versés par l'employeur. Un rapport remis aujourd'hui à la ministre des Transports Elisabeth Borne propose de généraliser cette indemnité kilométrique vélo en la rendant obligatoire. L'objectif, c'est que 1,4 million de salariés cyclistes l'aperçoivent en 2022. Élodie Vergelati, bonsoir.
Bonsoir.
Pour l'instant, l'IKV reste très marginal.
Oui, moins de 1% des salariés, 9000 personnes en bénéficient d'après ce rapport. Seulement 85 entreprises en France l'ont mise en place en un an et demi. Pourquoi si peu? Sans doute parce que le système est peu connu, il semble complexe. Et puis aux yeux de beaucoup d'employeurs, il est coûteux. Les salariés qui viennent au travail à vélo touchent environ 20 euros par mois. C'est l'employeur qui paye. Mais le rapport veut casser les idées reçues. Il affirme que le coût de l'indemnité vélo restera limité, même si on rend obligatoire le dispositif dans toutes les entreprises. Donc alors comment ça, c'est possible?
Comment est-ce possible, effectivement,
oui. Élodie? Et ben en fait, c'est un postulat paradoxal, mais le rapport part du principe que pas plus de 6% des salariés ne se mettront au vélo si l'indemnité est généralisée. C'est ce qu'une étude a observé sur le terrain. L'effet levier ne dépasse pas un certain seuil. Mathieu Orphelin, député En Marche de Maine-et-Loire, est co-auteur du rapport.
Dans cette hypothèse-là, eh bien le coût total ramené à l'effectif global de l'entreprise, on a un coût pour l'entreprise de moins de 23 euros par salarié et par an.
Le rapport insiste sur le gain de productivité pour l'entreprise. Un salarié qui pédale est en meilleure santé. Il a 15% d'arrêt maladie en moins qu'un collègue qui prend la voiture. Enfin, pour l'État aussi, l'indemnité vélo généralisée, ce n'est que du bonus, affirme ce rapport. Ce que l'État perd avec l'indemnité, elle est exonérée d'impôt sur le revenu, eh bien il le gagne avec une sécurité sociale financièrement mieux portante.
Élodie Vergelati, merci. C'était une grande dame de la bande dessinée. Annie Götzinger est morte aujourd'hui à l'âge de 66 ans. Dessinatrice, scénariste, Annie Götzinger s'était spécialisée dans les portraits de femmes, illustres ou non. Un point commun, toutes ces femmes revendiquaient leur liberté. Jean-Christophe Augier.
Dans le monde si masculin de la bande dessinée, Annie Goetzinger fut l'une des premières et pendant longtemps l'une des rares à porter un regard de femme dans ses BD. D'un trait réaliste et raffiné, porté par des couleurs légères au ton pastel, elle dessinait avec élégance la vie de Christian Dior, celle de Colette ou de George Sand. Associée au scénariste Pierre Christin, Annie Goetzinger avait, dès les années 70 et 80, brossé ses portraits de femmes libres qui se forgeaient un destin. On retiendra La demoiselle de la Légion d'honneur, La voyageuse de la petite ceinture, Charlotte et Nancy, et la série L'agence Hardy, qui met en scène une détective privée dans la France des années 50.
Jean-Christophe Augier, merci. Le temps demain gris sur les trois quarts du pays, du sud-ouest à la moitié nord. Les rares éclaircies de l'après-midi ne tiendront pas face au retour du brouillard. Le sud-est, en revanche, bénéficiera d'un temps plus ensoleillé. Température maximale en légère hausse de 5 à 8 degrés dans l'est et le massif central. 9 à 13 sur les autres régions. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À 18h20 sur France Culture, vous retrouvez Hervé Gardette du Grain à Moudre.
Merci Stanislas Vazak.